Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, Ludo de Radio Béton nous amène faire un tour au cœur de la ville d'Orléans et nous propose un tour d'horizon de la programmation du festival Hop Hop Hop, dont la nouvelle édition se tiendra les 15 et 16 septembre prochains. Carte blanche à retrouver en fin d'émission. Avant cela, nous retrouverons Tiphaine de la radio Westrack au Havre, en compagnie de Jules, membre du groupe marseillais Parade, qui nous présentait cette semaine un nouvel album nommé It All Went Bad Somehow, sorti au mois de mai sur le label Lollipop. Mais pour commencer, nous prenons la direction de Rennes et les studios de Canal B pour retrouver Yann, qui nous présente le nouvel album des Soap Opera, sorti au début du mois sur All In Banana Records.
Salut, c'est Yann de Canal B à Rennes. Cette semaine, dans l'émission Dig Dig Diggers, la Ferrarock vous fait découvrir Back on Tracks, le nouvel album du groupe rennais The Soap Opera, sorti le 9 juin sur le label Howlin' Banana. Après ce titre qui ouvre l'album, je parlerai avec Pierre-Marie, guitariste-chanteur, et Valentin, claviériste-chanteur du groupe The Soap Opera. C'était Who Ate the Last Phony Oreo par The Soap Opera. On retrouve le professeur Zorino et Bloody Bulga pour nous parler un peu plus de l'album Back on Tracks.
Le précédent, Ready to Hatch, il était sorti il y a 6 ans. À part cette petite pandémie de Covid qui est passée par là, qu'est-ce qui explique finalement la différence de 6 ans entre un premier et un deuxième album ? Je parle à Bloody Bulga, ben, c'est Pierre-Marie en fait. Bonjour.
Bonjour, merci pour la question. C'est parce que j'ai fait un enfant, ça prend du temps en fait, et l'album a l'âge de mon enfant. Mais du coup, il ne se ressemble pas trop.
Valentin, alias Professeur Zorino, je vous appellerai par vos prénoms si vous voulez bien dans la suite de la discussion. Toi, tu vois d'autres explications que celles que vient d'avancer Pierre-Marie à l'instant ?
Je dirais que ça prend du temps tout simplement. C'est pas un emploi à temps plein ni même rémunéré pour nous, donc c'est uniquement par sacrifice, par auto-sacrifice qu'on arrive à écrire des chansons, les enregistrer et tout ce qui s'ensuit, parce que y a pas mal d'étapes techniques avant d'avoir un disque vraiment entre ses mains.
Deux albums, en tout cas, c'est sûr, sortis chez Howlin' Banana pour le premier et le second. On verra peut-être plus tard les rapports avec ce label parisien. Mais quand même, est-ce que vous voyez, vous, une évolution du son des soap opera entre le premier album et celui-ci?
C'est un peu plus divers dans le type d'instrument utilisé. Sur trois morceaux, il y a eu des arrangements pour cordes, violoncelle et violon. Pour quatuor à cordes, c'est ça. Côté écrit, il y a même quelques essais de synthétiseurs sur deux morceaux. Donc forcément, par simple soustraction, il y a un peu moins cet effet guitaristique qu'on avait beaucoup sur le premier album. Des fois, il y a même des morceaux sans aucune guitare électrique, même pas de batterie sur un morceau, je crois. Plus de variété.
L'album d'avant, c'est le premier qu'on faisait à la maison. Le fait de faire de la musique enregistrée sur un ordinateur à la maison et que... Concrètement, on a aucune limite niveau des pistes qu'on peut enregistrer. C'est quand on l'a mis limite plus sur le premier album que là. Donc en fait, on pourrait croire que plus on avance, plus on voudrait avoir une version un peu plus sophistiquée de ce qu'on fait. Mais je pense qu'en fait, finalement, ce disque-là est plus à l'os que le premier. Peut-être mieux choisi, moins foufou, moins foutraque. Plus réfléchi peut-être.
Comment vous vous êtes réparti le travail entre toi Valentin, toi Pierre-Marie, parce que c'est vous qui écrivez les morceaux de soap opera. Est-ce que il y a eu vraiment cette émulation créative, ce concours un petit peu d'écriture comme c'est précisé dans la notice biographique qui accompagne le disque, ou est-ce que ça c'est un peu pour la légende et vous avez eu envie de donner cette légende là? Vraiment il y a moitié-moitié écrit par l'un et par l'autre.
La personne qui a parlé d'émulation, je pense que c'est quelque chose qu'elle projette en fantasmant ce truc d'avoir deux personnes qui sont créateurs dans un groupe, mais il se trouve qu'on est juste deux à écrire des chansons et que au final c'est un pur hasard si il y a cinq morceaux à moi et cinq morceaux à Valentin en fait.
C'est pas forcément une émulation, une surenchère, tu vois, envie d'aller plus loin que l'autre, comme tu disais. Ce serait plutôt essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas été fait par l'autre et du coup qu'est-ce que ça me laisse comme territoire à explorer, genre. Moi, j'ai utilisé pas mal de piano sur mes chansons. Pierre-Marie est un peu moins pianiste, donc du coup, ça me laissait plus de liberté pour jouer dans ce côté-là. Moi, je suis un peu moins guitariste que Pierre-Marie, donc lui est peut-être plus à l'aise avec ce côté-là.
Évidemment, à l'écoute, l'album de The Soap Opera est très pop, mais pas une seule facette de la pop musique peut-être. Il y en a plusieurs dans cet album-là. Un côté qui rappellera le duo Lennon-McCartney, ou alors peut-être les Frangins Davis. Puis on va aller vers des choses plus obscures, plus secrètes, plus précieuses peut-être avec les Left Bank. Mais on va aussi vers le côté indie pop des groupes des années 80 qui n'avaient pas envie de se limiter à copier ce qu'avaient fait justement les précédents dans les années 60. Vous avez pu porter votre pierre à l'édifice en allant aussi vers un côté peut-être un peu plus synthétique sur certains morceaux, comme on peut l'entendre dans un morceau qui va suivre tout à l'heure. C'est quoi la pop de The Soap Opera?
Qu'est-ce que ce serait? Je sais pas, moi j'aime bien l'idée qu'on retrouve peut-être aussi chez McCartney Lennon, c'est le résultat et paraît simple et prenant à l'écoute, mais dès qu'on analyse un peu la construction de la chanson, on se rend compte qu'il y a plein de petites subtilités, plein de recherches, soit sur la composition, soit même sur les techniques d'enregistrement, le fait d'avoir des petits trucs cachés dans les coins qu'on marque pas, mais qui permettent d'écouter le disque deux fois, cinq fois, dix fois, et à chaque fois d'embarquer des nouveaux trucs. Je pense que c'est ça le pop, c'est le mélange d'immédiateté et puis de côté un peu savant derrière quand même.
Surface in the morning,
un des aspects de ce disque Back on Tracks pour The Soap Opera, une des facettes pop du groupe avec ce titre Magic Number, l'un des deux morceaux d'une doublette qu'on peut associer au dernier titre de l'album, là où on voit les influences pop traditionnelles aller vers des choses qui me font penser. Mais quand est-ce que vous invitez Pharrell Williams finalement pour un featuring?
Ben, je sais pas, de toute façon 06...
C'est pas pour demain, c'est vrai que c'est pas un morceau de Daft Punk non plus, ce titre qu'on écoutait. Peut-être vous écouterez, vous qui nous entendez chez vous, le dernier album des Soap Opera, et vous verrez qu'il y a un côté quand même qui change beaucoup par rapport au reste de l'album, avec ses basses synthétiques, et puis des guitares bien funky, en fait. Il y a juste une voix qui n'est pas une voix falsetto, sinon on pourrait croire que vous vouliez faire un morceau disco, en fait.
Un mélange entre Orange Juice et Stevie Wonder, un truc comme ça.
Cet album a été enregistré en autoproduction, on peut le dire, c'est chez vous que vous l'avez fait, en fait. Comment ça s'est passé, le fait d'aller dans une cave, la tienne, Pierre-Marie, ou d'aller dans un studio, le studio Sauvage?
Alors, studio Sauvage, c'est un studio d'enregistrement, et en fait, on a fait les basses battes là-bas, parce qu'il n'y a pas assez de place pour faire ça chez moi, et le reste a été enregistré dans ma cave, mais ma cave, c'est mon bureau, hein, c'est pas de... c'est pas non plus s'imaginer des trucs... Hors batterie et basse, tout est fait maison, quoi. Donc ça reste quand même artisanal, et sur une durée de 2 ans, donc c'est entre deux, quoi.
On entend sur l'album un autre aspect que celui qu'on entendait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous faites la place, donc on a parlé aussi un petit peu avant, à des cordes, des arrangements qui ont été faits justement pour un petit peu transformer, augmenter peut-être les morceaux que vous aviez écrits à l'origine. Comment c'est arrivé et comment ça s'est passé, cet enregistrement? Ils sont venus aussi dans ton bureau?
L'arrangeur s'appelle Ronan Olua. À ça. Bon, c'est désormais un ami que j'ai rencontré il y a quelques années. On a toujours eu cette envie d'arranger nos morceaux avec autre chose que des guitares et des claviers. Le problème, c'est qu'il faut que ça se provoque, mais il faut connaître des gens. Et j'ai croisé Ronan par hasard dans la rue en remontant de chez moi. Et il m'a dit « Ah, c'est trop cool, salut et tout. Ah bah tiens, là il me dit « Ah, je fais des arrangements en ce moment. Ah bah super, tu veux pas arranger de mon album ?» Il a fait « Bah carrément, super. » Et on m'envoie les morceaux, et ça s'est fait comme ça. Ça n'a pas été un orchestre complet, ça a été fait par une seule musicienne qui a enregistré tous les arrangements du quatuor à la suite. C'est un peu le système D quand même, mais bon, on est quand même contents.
Les chansons ont des thèmes parfois sombres, parfois moins. Il y a la naissance, la parentalité en tout cas, le temps qui passe, et puis la perte de certains amis. Il y a notamment une chanson qui est totalement dédiée à ce que tu nous disais un peu comme étant une explication du temps un petit peu qu'il y a eu entre le premier et le deuxième album, l'arrivée d'un bambin, Toddler Time, c'est une des chansons. Je suppose que c'est toi qui l'as écrite, Pierre-Marie. Ces thèmes-là, ils arrivent à s'articuler de manière harmonieuse, ou il y a vraiment des choses qui... Voilà, c'est des choses, une sorte d'instantané de ce qui s'est passé pendant quelques années.
Un mélange de vécu, de rencontres, d'anecdotes, des considérations sociologiques, ça c'est plus pour Valentin, des rencontres manquées. Une chanson qui parle de mon voisin qui était complètement fou. Je lui passe le bonjour. Le morceau Golden Spring, c'est le vrai nom fantoche de sa boîte d'import-export qu'il a mis sur sa boîte aux lettres. Le titre complet, c'est Golden Springs SAS, entre parenthèses, Provisory, parce que c'est provisoire, donc c'est les provisoires longs. Donc ça parle de ce monsieur qui a notamment un blog sur lequel il parle tous les jours de l'immeuble. Il nous pointe sur son tableau comme des papillons ou des insectes. Il nous descend. Donc je pense que je lui mettrai un scellé dans sa boîte aux lettres, parce que moi j'ai déménagé depuis, mais il verra que, évidemment, que sa boîte existe vraiment, parce que c'est dans une chanson.
L'album Back on Tracks de The Soap Opera, il sort comme le premier Ready to Hatch sur le label parisien Howlin' Banana Records. Alors pourquoi vous êtes à nouveau sur ce label-là?
Et bien, parce qu'en fait on a les coudées franches. On le dit, on sort un album, ok, envoyez-moi. il a à peine écouté qu'il dit que c'est OK. Donc on a presque carte blanche, en fait. Et c'est super agréable, en fait. On est libre, on fait ce qu'on veut.
Pour terminer cette courte discussion, évidemment, trop courte, sans doute, vous irez les voir en concert, j'espère, les soap opera, si c'est possible. Comment vous envisagez, justement, l'avenir du groupe avec cet album, des projets de nouveaux morceaux, une tournée internationale, des collabs de malades?
Alors déjà, on va essayer de défendre ce disque le plus possible. On va faire pas mal de dates en France au mois de juin, juillet, août, septembre. Déjà, on a une vingtaine de dates qui sont bookées. Bon, si ça intéresse les gens, je les invite à aller sur notre Facebook. Toutes les dates sont annoncées. Sinon, pour la suite, c'est sans fin. On a déjà plein de morceaux pour faire un autre album.
C'est vrai qu'on a commencé à enregistrer l'album, c'était il y a 3 ans. Même en sortant de studio, on continue à écrire, à répéter. Donc les morceaux s'accumulent. On pourrait retourner en studio presque
maintenant.
Maintenant, oui.
Bah, je vous laisse retourner en studio. Alors, si vous êtes prêts à y retourner.
On dans mon studio.
On termine avec ce morceau que tu évoquais, dédicace spéciale à ton voisin.
Salut, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. De toute façon, je vais pas dire son vrai nom. Il pas le droit. No name, no pack drill.
L'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock, c'était à l'instant une présentation de l'album Back on Tracks du groupe rennais The Soap Opera, sorti le 9 juin sur le label Howlin' Banana. Retrouvez toutes les infos et réécoutez cette émission sur ferrarock.org.
Grande diagonale dans Dig Dig Diggers. Nous traversons l'Hexagone et prenons la direction de Marseille pour retrouver Jules, membre du groupe Parade, qui nous présentait cette semaine It All Went Bad Somehow, un nouvel album sorti chez Lollipop. Il est interrogé par Tiffen de Westrack, Radio Ferrarock du Havre.
«
It All Went Bad Somehow, c'est le nouvel EP de Parade, groupe rock marseillais, c'est sorti chez Lollipop. Pour en parler, c'est Jules avec nous aujourd'hui. Bonjour Jules.
Bonjour.
Parade, ça a commencé en 2019 avec un très bon élan en 2020, puisque vous êtes passé par la Casinouille du Printemps de Bourges. Mais vous êtes aussi fait un peu tacler dans cet élan par le Covid. Comment on fait aujourd'hui pour réussir à reprendre ce même élan après un stop imposé comme ça, et surtout quand on est un groupe naissant finalement?
On continue de faire ce qu'on faisait, j'ai envie de dire, mais on recommence. Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas que nous qui avons été stoppés, tout le monde a été stoppé en même temps et tout le monde est resté. C'est-à-dire que c'est la même chose pour tout le monde, quoi. C'est pas nous qui avons eu juste un problème et les autres groupes qui ont continué d'avancer. Donc on n'a pas beaucoup bénéficié du fait d'avoir été inouï. On n'a pas tant bénéficié au niveau des concerts. Maintenant, on a toujours eu envie de faire de la musique avant ça. On aura envie d'en faire après ça. Donc on continue et puis on est content de ce qu'on propose aujourd'hui. On est content de pouvoir le défendre en live.
C'est ça. Est-ce que du coup, la plupart des groupes, entre très gros guillemets, vous avez profité aussi du Covid pour continuer à composer et proposer des nouvelles choses pour le retour après?
Non, je crois pas, non. Très honnêtement, non.
Ouais.
On l'a subi. Moi, c'est mon premier groupe, Parade. C'était mes deux premières tournées, je me suis fait annuler, donc c'était surtout sauf qui peut pour ceux qui étaient intermittents, conserver nos statuts d'intermittents. Après, on a eu effectivement du temps pour créer, mais quand t'es obligé de sortir de chez toi avec des autorisations de sortie pour aller répéter, c'est un peu plus compliqué. Moi, je me suis retrouvé en fin de chômage, j'ai dû repartir chez ma mère à Toulouse. Enfin, ça n'a pas été hyper simple, donc je dirais jamais que le Covid a été propice à composer. C'est des conneries.
Tu dis que c'est ton premier groupe, puisque on peut le dire, avant de faire du rock, tu étais banquier.
Ouais, c'est ça, j'ai fait ça, ouais. Par défaut, hein, je l'ai pas choisi, mais j'ai fait ça.
Et comment ça s'est fait justement ce choix? Comment t'as choisi de prendre la direction du rock?
Moi, ça fait 15 ans que j'étais passionné de tout ça. Je fais de la guitare depuis que j'ai 8 ans. J'ai un tout premier groupe en réalité au collège, au lycée, des choses pas hyper sérieuses, mais je sais pas, c'est la rencontre avec Nico surtout. Qui m'a permis de comprendre que j'avais peut-être un peu de talent et que et moi à l'inverse lui permettre de comprendre à lui aussi qu'il avait peut-être un petit peu de talent et puis de faire des choses dans avec ces gens autour de nous à Marseille où dès notre premier concert on nous a rebooké dans un autre endroit. Enfin nous on n'avait pas du tout les codes et pourtant ça a super bien marché. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais besoin de me reconnecter avec ma vie. J'ai fait une grosse dépression, j'avais besoin de faire quelque chose que j'aime. De base, c'était pas censé être professionnalisant dans le sens où c'était juste un besoin vital, quoi. Et après, ça s'est enchaîné et puis on espère que ça s'enchaîne encore, surtout. If it's a dream you're after, it ain't the place to try. Less than all desire, anyhow. Be the one I had the dream you're after. You left no place to try. We've burned our desire one more time. Is it the real life? And what does it matter? Place for pain. We
this life. Is it through your eyes? What does it matter? If it's to realize that nothing's worth it.
Justement, Marseille, bah, je sais qu'on vous en parle à chaque fois, hein, mais c'est quand même la terre du rap un petit peu. Pourtant, j'ai l'impression, grâce aux recherches que j'ai pu faire pour cette interview, qu'il y a quand même pas mal de projets plutôt typés rock aussi. Et comment toi, tu définirais cette scène justement underground marseillaise ?
Elle est hyper riche. Elle est vraiment hyper riche. Elle est très do it yourself dans tout, très partageuse, très ouverte un peu à tous. Et on peut dire là, pour la fête de la musique, on va tous jouer sur la plaine, il y a une dizaine de groupes, et c'est vraiment des super groupes, et dans des styles hyper variés. Il y a vraiment une notion d'entraide, une notion de partage, une notion de... personne n'est là pour faire mousser, ou personne n'est là pour... tout le monde est là pour la musique, et les gens, c'est assez fantastique, hein. Je suis hyper fier d'appartenir à cette scène-là, et j'espère qu'il y a plein de groupes qui vont en sortir, parce que il y en a beaucoup qui méritent.
Et justement, c'est quoi l'héritage un peu l'héritage rock de Marseille, s'il y en a un?
Ouais, mais t'as un côté, je sais pas pourquoi, mais on est une ville très power pop. Il y a énormément de groupes power pop. Je pense à Oublié les Kéfars, je pense à Flatten qui vient de se former il y a 2 ans, KL et les Remords qui sont un peu les héritiers de ceux qui étaient là 10 ans avant, des Tommy et des Cougars et tout ça. Il y a un côté très punk aussi avec les derniers représentants, c'est peut-être La Flingue aujourd'hui, et avant il y a eu les Neurotic Swingers, les Irriton. Donc voilà, il y a un peu ces deux pendants, et puis un peu de tout aussi, du post-punk. Il y a eu énormément de groupes, il y a eu les Warrior Kids, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais il y a un peu cet héritage d'un côté vers le punk et de l'autre côté vers la power pop. Nous, on n'est pas là-dedans, mais il y a des groupes qui font ça extrêmement bien.
Tu dis, nous, on fait pas ça. C'est vrai que votre rock, il est classé un peu underground. Et aujourd'hui, surtout en France, on a un espèce de revival aussi du rock des années 80 avec un côté très pop aussi, presque le retour aussi du chant francophone dans le rock. Vous avez décidé de ne pas prendre ce chemin-là?
Ouais, mais c'est pas... Moi, je ne sais pas chanter en français. Enfin, j'ai beaucoup de mal à écrire en français, je ne sais pas trop chanter en français. La majorité de ce que j'écoute est en anglais, et voilà. Il y a notamment KL qui chante super bien en français avec des textes hyper cool, et c'est super. Nous, on a pas fait ce choix-là, mais c'est pas, on a pas vraiment fait de choix. Il n'y a pas eu de réunion avant de faire le groupe. Ouais, on va faire telle musique, on va la faire comme ça, avec ci, avec ça. Enfin, c'était pas, il n'y a rien de très calculé là-dedans.
Et comment ça se passe alors pour la composition? Parce que tu disais que Parade, ça s'est formé grâce à ta rencontre avec Nico. Comment les autres ont rejoint justement le projet, et comment vous écrivez ensemble, comment vous composez ensemble aujourd'hui?
Alors, au départ, c'est Mathieu qui nous a rejoint. Nous, on joue avec une boîte à rythme avec Nico. au bout de deux concerts, il nous a rejoint. Donc on a commencé à écrire les premiers titres avec lui et à l'intégrer sur les quelques titres qu'on avait déjà. Et Marine est arrivée quelques mois plus tard aussi. L'écriture se fait ensemble parce que moi, je vais peut-être amener quelques accords ou alors Nico une mélodie. Et puis chacun se greffe. Moi, je trouve la voix, Marine trouve sa basse, Mathieu, c'est collaboratif, on va dire. Enfin, on écrit tous ensemble et en salle de répète.
C'est ça, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui commence à lancer un petit truc et puis derrière ça va suivre et ça va se composer un peu comme ça. Comme...
Ouais, mais ça ressemble très rarement à ce que c'était à la base.
Beaucoup de mouvance du coup dans cette composition.
Ouais, ouais. Tonight's a disaster for the shit I've been told. What makes me wonder, what makes me fall. It's not a different than your being is. Just a different time. Whatever you went through since the tears in your eyes, in the darkness of your thoughts when they rise, it's not a different than your being is. Just a different path. Change your heels. You know that I feel. We find it sure to feel insecure. In the evening when I collapse, I wonder where might be the only light until I sink, and I keep on repeating it's just a different life. They'll change your pills till you know how to feel. They'll find it sure.
Pour parler de votre nouvelle EP, donc All Went Bad Somehow, il est composé de 7 morceaux. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il raconte, cette EP ?
Ouais, c'est un peu un pansement pour moi, enfin, en termes de texte. C'est un peu plein de phases un peu merdiques ou pas de ma vie, quoi. Moi, j'ai su que j'étais bipolaire en janvier 2020. Donc il y a une chanson qui parle d'une crise maniaque que j'ai faite. Il y a Salis Gone qui parle de ma grand-mère qui est décédée, mais dans des termes plutôt drôles, quoi. C'est plutôt un micmac de plein de merdiers qui sont arrivés dans ma vie. Electric Fear, ça parle un peu de mon passé à la banque et de la saloperie que c'est de se lever à 8h le matin, d'aller 1h dans le métro pour aller faire un boulot que t'aimes pas et rentrer le soir. Enfin bref, l'aliénation du monde du travail, on va dire. Voilà, et puis c'est un peu tout ça mis bout à bout. Moi, ça m'a, depuis qu'il est sorti, ça me fait un bien fou. J'ai arrêté les anxiolytiques, je me sens beaucoup mieux. Je sens que ça m'a à moitié soigné, quoi.
Il y a un côté très sombre du coup quand même dans cet opus.
Oui, dans les textes assez sombres et dans la musique moins, mais oui, moi je pense que si on peut dire rock aujourd'hui, c'est qu'on a quand même besoin de dire des choses, pas forcément des choses à dire, mais besoin de dire des choses. Et que j'ai du mal à écrire sur le soleil jaune et la mer bleue, quoi.
Du coup, il porte quand même bien son nom, hein, All Went Bad Somehow. Tout s'est mal passé d'une différente façon. C'est un peu ça que ça veut dire.
Oui, c'est un peu ironique. Enfin, je vois de manière ironique. C'est vrai, donc tout s'est mal passé, mais en fait, on est toujours là, debout, sur nos deux pattes, et quelque part, ça va. Donc, c'est tout. plus ironique que sérieux comme tout.
Oui, puis on est toujours là pour le chanter finalement.
Voilà, exactement. Et pourvu qu'on s'amuse, quoi.
C'est ça. C'est un EP qui est du coup 100% made Marseille aussi, que ce soit pour, par le label, etc. C'était un désir, ça aussi, de faire quelque chose, de faire vivre un petit peu la localité finalement.
Bah oui, parce qu'honnêtement, comme je te disais, sur la scène locale, c'est aussi vrai c'est aussi vrai partout en termes de salles, en termes de labels, en termes de prod, en termes de festivals. Il y a quand même énormément de choses à Marseille. C'est la deuxième ou troisième ville de France. Je m'en fous de ça, mais c'est une grande ville. Donc, il y avait quelque chose à faire. Moi, j'ai regardé. Il y avait très peu de groupes qui étaient sortis de Marseille. Et je tenais personnellement à ce qu'on ait un label marseillais parce que d'une part, on les voit tous les jours avec des amis. Une prod marseillaise qui est la Maisonne. Et puis, je vois, s'entourer des gens qui sont là en local, c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est comme des circuits courts, mais version musique, quoi.
Et alors, j'ai pas eu la chance de vous voir sur scène encore, mais j'ai pu lire et voir sur tout ce qu'on pouvait vous dire sur vous, que Parade, c'était surtout à vivre en concert. Vous en avez de prévus, là, dans les jours, les mois à venir?
Ouais, alors on a une super date dont on est hyper fiers, au Point de Chute Festival, qui est un festival à Tricourt, qui est un gros festival très branché post-punk où on partage la scène avec notamment, enfin je sais pas, Viagra Boys et des groupes comme ça, ou Idol, ça c'est, c'est clairement un rêve. Donc ça, on sera le 9 juillet sur la scène de la Pinède à 20h. Plus proche, on a une date, on va jouer en Aveyron le 1er juillet, on a une date à Aix au Sismic le 7 juillet, et puis bon, la fête de la musique, mais ça je pense que ça sortira plus tard, donc voilà, et après à la rentrée et à l'automne surtout, donc au Rockstore à Montpellier le 5 octobre, le 18 novembre au Cargo de Nuit à Arles, on a des dates encore en décembre aussi, enfin, je n'ai pas tout en tête, et on est encore en train de bosser sur la tournée d'automne, mais ça va être cool aussi.
Eh ben merci, avant de vous découvrir sur scène, n'hésitez pas à donc découvrir cet EP, 7 morceaux le composent, It All Went Bad Somehow. Merci Jules.
Merci à toi.
You reaching out of class, always pretend of being your 18 birthday. You've always tried to hide from the authorities. You steal our time, and be the youngest girl I've ever met. We would go on a ride to live a life you've always dreamed. You would always be free at last, the smartest woman I had ever seen around. Tell me stories about your past, tales from a world I had never been. And it's tough, but it's hard if you hold one more night. Yeah, it's tough and it's hard, though you left me with our last memories. Hold your hands, I would easily understand. Now I feel the pain when you're gone away.
Terminons ce numéro avec la carte blanche de la semaine. Ludo de Radio Béton s'entretient avec Mathieu Dufaux, programmateur du festival Hop 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 à Orléans, événement dédié aux musiques émergentes qui se tiendra les 15 et 16 septembre prochains.
dédié à l'émergence musicale. Le festival Hop Hop Hop, c'est le plaisir de découvrir les artistes de demain et l'envie de faire partager au plus grand nombre les tendances inédites et les univers musicaux en devenir. Associé avec des créations interactives, ateliers, des rencontres, Hop Hop Hop, c'est le festival qui est devenu l'événement musical et festif de la rentrée. Autour de trois lieux du centre-ville d'Orléans, chef-lieu du Loiret en région centre, le rendez-vous est donc pris les 15 et 16 septembre 2023. Une trentaine d'artistes répartis sur 4 scènes, ce sera l'occasion de découvrir des nouveautés, de danser et bien plus encore pour cette 8e édition. Pour en apprendre un peu plus, nous sommes avec Mathieu Dufaux, programmateur du festival Hop Hop Hop. Salut Mathieu.
Salut Ludo.
Eh ben ouais, on va y être hein, déjà en septembre à cette 8e édition sur les terres orléanaises.
Ouais, bien d'y être. Maintenant que la programmation est bouclée, il n'y a plus qu'à préparer cette petite sauterie qui va durer deux jours, deux soirées, le vendredi et le samedi. Et voilà, encore une édition un peu particulière parce que cette année, chaque année ne se ressemble pas. C'est parfois bien, parfois c'est un peu usant parce que c'est, là, c'est plus pour des motifs de disponibilité de salle. Donc le théâtre, c'est une salle assez particulière qu'on exploite, où on met 500 personnes sur un plateau de théâtre avec qui est un peu, où on renverse un peu le rapport à la salle habituelle, n'est pas disponible. Donc on a créé une nouvelle scène au Camposanto. Camposanto, il y a cette grande scène qui propose des groupes et on aura une scène 360 circulaire.
Ah, c'est donc ça la nouveauté de cette année.
Voilà, c'est ça la nouveauté de cette année. C'est gentiment prêté par le Centre chorégraphique national de Maud Lopladec, qui eux ont cette scène depuis des années, et sur lequel ils mettent une bulle habituellement et des danseurs à l'intérieur ou des danseuses. Et nous, on a viré la bulle parce que faire du rock ou d'autres choses sous une bulle, c'est pas, voilà, l'acoustique n'est pas parfaite, je pense. Et l'idée, c'était plus de profiter, voilà, un peu d'immersion sonore. On va être, il y aura une multidif, voilà, où les gens pourront se balader autour de la scène et écouter de la musique, soit des DJ ou soit des groupes.
Est-ce qu'il demande plus de technique à la sono hein, ça te permet de moduler le son de plusieurs manières du coup.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est un travail de technique, effectivement, et c'est pas le mien.
Heureusement, apparemment.
Et heureusement. Non, mais c'est chouette. Après, ça permet de garder un peu l'ADN du festival et de proposer, comme tu disais dans ton introduction, c'est-à-dire quatre scènes, ce qui est un peu l'ADN du festival, c'est de pouvoir faire des ping-pong entre ces différentes scènes, de se balader, de découvrir des groupes, et puis dans un petit périmètre en fait, parce que pour ceux qui connaissent pas ce festival-là, il a lieu effectivement au centre-ville d'Orléans, vraiment à côté de la cathédrale d'Orléans. Ouais. Et les distances entre les sites sont de l'ordre de 50 à 100 mètres, donc voilà, et les gens circulent comme ça entre ces différents sites, quoi.
Oui, et puis faut se dire quand même, hein, réunir deux scènes au Camposanto, ça permet une logistique plus fluide aussi, hein, moins de bars à gérer.
C'est ça, ouais, ça concentre, t'as complètement raison là-dessus. Moins de bars, il y aura toujours autant de techniques parce que de techniciens ou de techniciennes parce qu'on va les mettre en lumière et puis on va les sonoriser.
Tu nous disais qu'il y avait cette adaptabilité aux disponibilités de scènes, ce qui engendre aussi des réflexions autres sur la programmation. J'ai l'impression qu'il y a moins d'artistes cette année, une dizaine de moins. Est-ce que c'est lié à cela ?
On est effectivement à moins d'artistes. On est à 30 artistes en tout, précisément, dont 3 qu'on n'a pas encore annoncé, mais que je vais pouvoir vous annoncer en interview. Et puis, on n'a pas voulu mettre des artistes sur toute la durée des interplateaux de la grande scène du Camposanto. On en a mis 2 le vendredi et 3 le samedi. On commence plus tard le samedi, ce qui va permettre aussi parce que les deux années qu'on était pendant le Covid, où on a eu la chance, entre guillemets, de faire notre festival, on avait pu conserver que 3 scènes, et on avait décidé d'ouvrir plus tôt que d'habitude le samedi à 14h, avec le premier groupe à 14h30. Là, ça sera pas le cas. Le premier groupe sera plutôt vers 16h, donc ce qui permettra d'accueillir encore plus de ce public à cette heure-là et de faire jouer les groupes devant un peu plus de monde. Donc voilà, on est passé de 40 à une trentaine de groupes, effectivement. On aurait été bien évidemment super content de reproduire la formule de l'année dernière, mais voilà, les choses ont changé en cours de route, donc on s'adapte et puis on trouve des idées et puis on organise le festival.
Et ça fait plus de rab à la cantine.
ça fait plus d'heures à la possible, c'est sûr.
Et ben on va rentrer un peu plus en lien avec cette programmation. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette 8e édition?
Alors, pêle-mêle, c'est comme d'habitude, hein, Fred, le directeur de la salle, le directeur de l'Astrolabe et du festival, participe également, parce qu'il écoute encore beaucoup de musique, il fouine encore, il va chercher. Moi, je vais beaucoup en festival, et comme vous tous, on écoute de la musique, ça c'est sûr, mais donc on essaye de fouiner, de chercher. On n'est pas sur des festivals de tête d'affiche, on est sur l'émergence nationale, régionale, internationale, sur tous les styles. Moi, il y a des coups de cœur, il y a notamment les Togolaises, les Nana Benz du Togo, qui sont trois chanteuses et deux instrumentistes derrière, qui sont un groove, une soul assez impressionnante que j'ai vu en concert, moi, à Rennes, et que je suis vraiment content de pouvoir montrer dans le cadre de ce festival-là. Elles sont trois femmes qui chantent sur scène. Elles chantent très très bien. Elles ont une voix admirable. C'est la lisière de la soul, c'est la lisière de voix typiquement africaine, mais pas que. Ça groove énormément. C'est assez surprenant.
Maintenant j'ai compris.
Tu as compris.
Maintenant j'ai compris.
Tu comprends pas.
Maintenant j'ai compris.
T'as compris.
Maintenant j'ai compris.
Hey.
Quand je dis non, c'est non.
J'ai compris.
Il y a Marouja aussi, un groupe anglais composé de quatre musiciens, batteur, sax, chanteur, guitariste, bassiste, un sax étonnant, un chanteur habité, vraiment. Parfois, le chanteur peut être aussi habité que le chanteur d'Idols, même si c'est pas la même musique, mais dans la posture, dans les sensations, dans l'émotion qu'il ressent. Parfois, on entend du sax à la morphine, mais c'est beaucoup, ça peut être calme et tranquille et parfois vraiment violent. Ça, c'est une découverte qu'on a faite et que j'ai vraiment hâte pour le coup de voir sur scène. Warriors aussi, qui est une petite perle irlandaise qui vient le samedi au pop-up. Contrairement à du post-punk que j'aime beaucoup et qui est parfois tout droit, tu vois, et qui va à fond les ballons et qui fait pas dans la demi-mesure, eux, il y a un peu plus de finesse, mais ça reste du post-punk quand même. Il y a des moments plus calmes, plus éthérés. Parlons d'un duo aussi orléanais qui s'appelle Griff.
Ouais.
Deux femmes qui sont à la basse et au tom basse. Qui écrivent très très bien, qui chantent très très bien. On a été conquis, en fait. Elles ont fait une résidence à l'Astrolabe, la salle de concert d'Orléans. Et à l'issue de la résidence, même pas au milieu du concert, on s'est regardé avec Fred et on a dit « on les veut ». Et il y avait vraiment un truc, chanson engagée, chanson militante, très bien écrite, des très très belles voix, un peu dépouillées là, quand même, parce qu'une instrumentation assez légère, une basse qui grogne, de temps en temps. Et puis la chanteuse lead, elle est plutôt avec son tom basse et elle nous amène dans leur univers là.
« Fendre le bois quand c'est l'hiver, filer des bûches et des fagots, se déchaîner, réduire la star, fendre le bois, teaser le feu. »
Des groupes qui nous font voyager à travers le monde. Hein. Tout à l'heure, on citait les Nana Benz du Togo, mais il n'y aura pas que elles hein, sur cette incitation au voyage. Il y aura aussi Étrandelair que tu nous ramènes pour le pop-up.
Ouais, Étrandelair, ça, c'est un groupe du Niger qui font de la musique depuis une vingtaine d'années, qui ont commencé chez eux à faire des fêtes, des cérémonies, des mariages, à jouer de la musique comme beaucoup de groupes. Qui peuvent commencer leur musique sur des cérémonies comme ça au Niger ou dans d'autres au Maroc ou dans d'autres groupes comme ça, et en l'occurrence la sauce a pris et maintenant ils parcourent le monde, ils baladent. Donc là on est sur un blues un peu guitariens, avec des guitares, avec une espèce de transe lancinante, permanente. Ça peut rappeler Tina Riwen dans une couleur musicale, même s'ils ne sont pas du même pays. C'est chouette de voir ces groupes-là. Bah, tu parles de dépaysement, on parle aussi de Koutou. Il faut savoir que dans ce groupe, il y a deux frangins, les frères Secaldi, qui sont originaires d'Orléans, qui parcourent maintenant toute la France, l'Europe, avec plein de groupes différents, dont celui-là, mais pas que. Et il reste plus qu'une chanteuse éthiopienne dans le lot, mais elle en fait deux fois plus, elle est tout aussi dynamique que Pink Clavieris, que des bons musicos.
Tradition qui est respectée pour cette édition 2023, c'est la présence de la scène belge, Festival au Pop-Up, comme tous les ans. Tous les ans, on a le droit à une perle venue de Belgique.
Donc effectivement, il y a toujours une représentation de la scène belge, donc Ada Oda, porté par un duo au départ, dont César, un des musiciens de Brents, qui lui a quitté Brents en cours de route. Et puis une chanteuse belge, mais qui chante en italien. Et puis ils se sont réunis tous les deux. Et ils ont pu associer trois autres musiciens à leur groupe de rock, qui chante en italien. Moi, j'ai trouvé ça super. Non a niente da offrire, non a niente da dare. Et puis Bosslen, qu'on a déjà vu dans la région centre, ça c'est sûr. Batteur, machine, on va dire électro, quoi, qui est bien pour clôturer des soirées généralement. Lui, il jouera sur la petite scène circulaire, justement. Mmh. Voilà.
Rock des Sons aussi, hein, qui nous viennent tout droit de Belgique.
Eh ben, ils sont de Belgique aussi, je les avais oubliés, t'as raison. Ouais. Ils sont flamands pour le coup, mais ils sont belges quand même. Et les Sons, il y a du garage, il y a du rock'n'roll, il y a du rock, il y a des sons. Eux, ils incarnent vraiment, c'est vraiment pas des poseurs pour le coup. Hein. Ils sont dedans à 150%. Et moi, ça m'a foutu une claque, en fait. Le son, en plus, en prod, en face, c'était énorme. Donc là, c'est peut-être le groupe le plus rock'n'roll, entre guillemets, on va dire, de la programmation, parce que les autres sont plus sur de la noise ou des trucs post-punk ou des trucs comme ça. Mmh. Mais voilà, ouais, je suis content d'avoir cette couleur-là dans la prog.
Il y a aussi une des raretés de scène actuelle, c'est le collectif Astéréotypie qui sera présent pour cette édition.
Ouais, alors Astéréotypie, les gens, je pense que là, le dernier album, parce qu'ils ont quand même fait d'autres albums avant, a été tellement promu que on a pu que les découvrir ou les entendre ou les voir. Mais si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, il y a encore du temps, il y a plein de temps devant vous. Rappelons un peu l'histoire de ce groupe-là, en fait, c'est des femmes, des hommes autistes qui écrivent les paroles. C'est pas forcément les gens qui écrivent qui vont les chanter sur scène, parce que il y en a certains qui sont pas tous en capacité ou qui arrivent pas ou qui veulent pas ou qui sont encore intimidés. Hein, la scène, c'est pas simple. Et qui sont encadrés, eux, par des éducateurs et qui sont encadrés par des musiciens pros, bien évidemment. Et là, cet album-là les a promus sur toutes les scènes. Et on retrouve sur scène avec ce groupe-là, on est charmé par l'attitude, charmé par comment c'est porté sur scène par ces deux chanteurs et cette chanteuse-là. Jusqu'à présent, c'était le cas, ils étaient trois à chanter. Et ils succèdent les uns aux autres, en fait. Et les morceaux, je vous invite à les découvrir, mais c'est vrai qu'il y a des tubes.
Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou.
Programmation riche et intense donc, hein, retrouver 30 artistes là. On n'a pas pu tout parcourir, hein. On pourrait parler des conseils de Roland Cristal, hein, au cas où on est un caillou dans sa chaussure. On aurait pu parler des six rockers de Stuff Foxes, The Big ID, Nicolas, tellement d'artistes, hein, qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, hein, avec toi, Mathieu.
Ouais, ouais, ouais.
La programmation complète, eh bien, on peut la retrouver, hein, sur le site de Hop Hop Hop.
Elle est sur le site de Hop Hop Hop. Alors, il y a encore, il manque trois groupes que je vais vous donner là, juste maintenant. Là, c'est Gwendoline, c'est Ben PLG en hip-hop, et puis un duo anglais qui a fait toutes les premières parties de Black Midi, là, qui est batterie sax, qui s'appelle O. Voilà. Et voilà, ça va être mis à jour d'ici peu de temps. Et entre temps, vous pouvez sur Spotify ou sur les voilà découvrir sur le site. Il y a des clips, il y a de quoi écouter du son. Et puis il y a tous les renseignements pratiques liés au festival pour y accéder, pour se nourrir et tout ça et tout ça quoi.
Et ben voilà les exclus et les infos nécessaires. Merci Mathieu pour nous avoir confié un peu ton ressenti sur cette programmation. On a hâte de se retrouver. On sera en direct d'ailleurs avec les radios Ferrarock en septembre prochain, donc entre le 15 et le 16 septembre plus précisément à Orléans. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous.
Merci Ludo, merci à la Ferrarock. Salut.
Merci d'avoir écouté Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, nous vous présentions Back on Tracks, deuxième album des Rennais The Soap Opera, sorti le 9 juin chez All In Banana Records, ainsi que It All Went Bad Somehow, nouvelle production des Marseillais Parade, sorti chez Lollipop au mois de mai. Plus d'informations sur le www.ferrarock.org. Une nouvelle fois cette année, veuillez noter que le réseau Ferrarock se retrouvera en direct du festival Hop 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 au mois de septembre, assisté par le Vélo Studio de Radio Méga. Plus d'infos à venir sur ferrarock.org, à retrouver d'ores et déjà sur hophophop.fr.